Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous qui nous rejoignez sur Internet. Ce soir, on arrive à la deuxième prédication au sujet de la contemplation. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 54 d'Ésaïe. Ésaïe 54, Dieu bénisse sa parole pour chacun d'entre nous. Ésaïe 54, verset 2, où il est dit: élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages. Amen. Amen. Dieu soit béni. Alors je voudrais dire merci à tous ceux qui sont fidèles sur Internet, sur Révélation Bible, qui m'ont écrit et qui m'encouragent, qui posent des questions aussi au sujet de toutes ces choses, de la contemplation. Et voilà, donc ce soir on va aller un peu plus loin et d'après les choses qui m'ont été dites, alors je vais dire certaines choses aussi ce soir afin de répondre à quelques questions. Mes frères et sœurs, savez-vous déjà premièrement que le mot Dieu, ça signifie objet d'adoration? Dieu, ce n'est pas le nom de notre Père, il ne s'appelle pas Monsieur Dieu. Hein? C'est comme Jésus-Christ, Christ, ce n'est pas son nom de famille. Hein? Ce n'est pas Jésus-Christ comme c'est Michel Janton, Christ, ce n'est pas le nom de famille, Christ signifie « ouin ». Et ouin, ça ne veut pas dire, alors l'onction, n'est-ce pas? J'en parlais déjà l'autre jour, l'onction. Nous sommes plus que ouin, nous sommes remplis, baptisés, immergés, n'est-ce pas? Alors la contemplation, elle tend à vous aider à entrer dans la présence de celui que vous adorez. La Bible dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, en vérité? Alors, le Seigneur Jésus est l'objet de notre adoration. Alors, la contemplation, c'est en fait un moment d'absorption totale. Ceci dit, il faut que j'explique maintenant. Par exemple, quand vous êtes au travail et que vous êtes impliqué dans ce que vous êtes en train de faire, eh bien, le temps semble s'arrêter, n'est-ce pas? Votre conscience baisse les bras, c'est-à-dire que vous n'êtes plus conscient du temps qui passe. Ça vous est déjà arrivé, non? D'un coup, c'est « Oh !» Alors, quand on est sur Internet, ça arrive très souvent, ça. Hein? « Oh !» C'est pas possible, la cloche sonne, c'est déjà l'heure d'aller manger. Hein? C'est au château, c'est clair, c'est très souvent ça me fait ça. On n'a plus conscience du temps qui passe, on n'a plus conscience, quand on est absorbé dans un travail, de ce qui se passe autour de nous-mêmes. Je me rappelle, quand on avait devant la maison, on avait ce puits et il y avait quelques grenouilles. Alors les enfants, ils adoraient aller jouer avec les grenouilles. Et puis ça criait, ça chantait, c'était rigolo. Et moi, j'étais tellement absorbé dans mon truc, je ne les entendais plus, les gamins. On est absorbé, n'est-ce pas? Absorbé dans ce qu'on fait. Eh bien, quand vous êtes en contemplation avec Dieu, votre âme se calme. Elle devient capable d'être réceptive parce qu'elle n'est plus distraite par toutes sortes de choses. Elle ouvre en vous-même un espace plus vaste. Hein, voilà pourquoi j'ai pris ce texte. Élargis l'espace de ta tente. La tente, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes dans la tente, pas seulement dans la tente du retour de Jésus, mais nous sommes dans une tente. Notre corps, c'est une tente. Hein, c'est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, c'est là où nous sommes, nous vivons en communion avec le Seigneur. Et il ne faut pas retenir, il faut allonger nos cordages. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester bloqué avec nos petites idées. Hein, peut-être vous avez des idées bien religieuses au sujet de la méditation, au sujet de la concentration sur les choses de Dieu, au sujet de la contemplation. Alors il faut élargir maintenant tout ça. Vous savez, je connais les réactions qui peuvent surgir à ce que j'ai dit là. Hein, j'ai dit, il faut ouvrir en vous-même un espace plus vaste, ouvrir. Et je sais, j'ai lu des tas de livres chrétiens. Et je sais que dans les milieux chrétiens, eh bien, on se méfie beaucoup de la contemplation parce que les gens ont peur qu'étant ouverts, c'est-à-dire étant réceptifs, ils soient visités par des mauvais esprits. C'est là tout le problème. C'est là tout le problème. Alors, je m'adresse ici à des gens consacrés, qui sont en ordre avec Dieu. Et frères et sœurs, en tant que serviteur de Dieu, je n'ai pas le droit de cacher des choses importantes et sacrées au peuple de Dieu, sous prétexte qu'il y a des personnes faibles ou des personnes malhonnêtes au milieu du peuple et qui pourraient se servir mal ou qui pourraient faire un mauvais usage de ce que je dis. Si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, c'est clair,
Si vous fricotez avec l'ennemi, c'est clair, c'est évident qu'il vaut mieux que vous vous repentiez, que vous changez de vie avant de vous amuser à vouloir entrer en contemplation. Parce que là, c'est vrai que vous pouvez rencontrer des esprits bizarres, des entités qui sont mauvaises. Mais, mes frères et sœurs, je m'adresse à des disciples de Jésus auxquels rien ne peut leur nuire. Rien ne peut vous nuire, dit Jésus. Il dit ça à ses disciples, il ne dit pas ça à tout le monde. Il y a des tas de choses qui peuvent être nuisibles à monsieur et madame tout le monde, mais nous ne sommes pas monsieur et madame tout le monde. Nous sommes des disciples de Jésus, c'est à vous que je m'adresse. Comme Paul d'ailleurs, Paul il s'adressait aux chrétiens, il leur disait que personne ne se prive de la Sainte Cène. Mais cependant, il disait aussi que c'était dangereux si vous n'êtes pas dans une bonne position spirituelle, si vous êtes en mauvais état spirituellement, c'est dangereux de la prendre, parce que si vous la prenez en étant dans une mauvaise position spirituelle, eh bien, Paul dit, c'est pourquoi il y a beaucoup de malades parmi vous, c'est pourquoi il y en a même qui sont morts. C'est-à-dire que quand vous approchez des choses spirituelles d'une façon indigne, c'est la mort qui vous guette aussi. Hein. C'est pourquoi, mais il y a donc toujours un danger quand on s'approche vraiment du monde spirituel. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des chrétiens faibles qui veulent rester faibles toute leur vie, ou il y en aura toujours, hein, ou des chrétiens malhonnêtes, ce qui est pire encore, insouciants. Eh bien, ce n'est pas parce qu'il y a des gens comme ça que les chrétiens forts et fidèles doivent être privés de l'enseignement au sujet des choses sacrées. On ne va pas commencer à dire, maintenant, vous les faibles, vous restez dehors, il y a un message pour les initiés. Non, je donne comme l'apôtre Paul, je donne le message pour tout le monde. Et puis, soyez sages. Si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous entriez dans ces choses de la contemplation. Ça veut dire qu'il faut que vous mettiez en ordre avec Dieu, puis ensuite, vous rentrez dans les choses sacrées de la contemplation. Sinon, c'est vrai que ça peut être, comme pour la Sainte Cène, un danger pour vous. Et voilà pourquoi on a tellement de déséquilibrés, de gens qui prennent des vessies pour des lanternes dans l'église de Jésus-Christ et qui croient faire des expériences avec Dieu, puis ce n'est pas Dieu. Voilà, ce n'est pas Dieu. Alors, pour fixer les choses, premièrement, il y a la méditation qui est une réflexion, hein, je répète. Ensuite, il y a la concentration qui est un effort de notre âme. Il faut se concentrer. On ne peut pas rentrer dans la contemplation si on n'est pas concentré, si vous êtes distrait. Vous vous rappelez, alors je vous ai dit, fermez vos yeux et dites cette phrase, vous vous rappelez ce que je vous ai enseigné la dernière fois. Et puis alors, la contemplation qui est la réceptivité de votre âme, de votre être, vous recevez. Vous n'êtes pas en train de prier, vous n'êtes pas en train de demander des choses, vous êtes en contemplation devant Dieu. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu perpétuent leur souffrance parce qu'ils ne pratiquent aucune de ces trois choses, ni la méditation, ni la concentration, ni la contemplation. Ou alors, ils en pratiquent une, et ça fait des chrétiens intellectuels, ils pratiquent la méditation, c'est-à-dire la réflexion. Ils sont des chrétiens intellectuels, ils savent tout. Mais à part ça, il n'y a rien. Quoi. Combien on en voit, hein, c'est terrible, ils savent tout, mais dans leur vie, il ne passe pas grand-chose. Beaucoup d'authentiques enfants de Dieu qui créent aussi des mauvais plans dans leur vie, parce qu'ils ne savent pas arrêter le modèle répétitif et limité qui s'est inscrit en eux depuis leur enfance. Ils ne savent pas l'arrêter. Ils répètent toujours le même truc. Il y a des familles aussi, des familles entières qui répètent toujours le même truc. C'est bizarre. Et beaucoup de chrétiens réfléchissent mal. Ils ne donnent pas à leur être, à leur âme, de quoi réfléchir sainement, saintement. Ils ont des idées au sujet de Dieu qui sont tout à fait erronées. La nourriture de leur âme, ce n'est pas vraiment la parole de Dieu. La parole de Dieu, pour elles, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est une interprétation de la parole de Dieu. Ils voient un Dieu bizarre. C'est un Dieu bizarre, leur Dieu. Alors, il faut réfléchir, il faut méditer. Méditer, c'est la même racine que ruminer. C'est-à-dire, il faut manger deux fois, au moins. Il faut vraiment réfléchir. Il faut pas... Ce n'est pas parce qu'un prédicateur arrive et vous balance un truc, voilà, ah, amen, on entend. Non, il faut réfléchir, analyser, sonder les Écritures, sonder les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit, même moi, ce n'est pas parce que je vous dis quelque chose qu'il faut croire. Il faut que vous méditiez, que vous y réfléchissiez, parce que quand vous arriverez devant Dieu, vous ne pourrez pas dire, oh, Michel Mjonton m'a conduit dans l'erreur. Non, vous avez une intelligence, vous devez vous en servir. Donc il faut réfléchir. Beaucoup de chrétiens lisent un petit bouquin, c'est très joli, les trésors de la foi de Spurgeon, des machins comme ça, c'est très bien. Ou le calendrier, moi aussi j'ai le calendrier. Hein, c'est la première chose que je lis le matin, c'est le petit calendrier que Rachel nous a donné, c'est super. Mais il y en a et beaucoup, ils pensent que ça suffit. Et ils lisent le petit verset, après ils s'assoient avec leur petit café, puis ils regardent le texte qui est derrière, puis ils pensent que ça y est, ça suffit. Bon. Alors après avoir vraiment donné à leur âme une nourriture, vraiment quelque chose de spirituel. Hier, j'ai offert une Bible à Lucas, la Bible pour les adolescents. Hein. Il n'est pas encore adolescent, mais il est intelligent, donc il peut comprendre, il peut la lire et puis étudier. Il aime beaucoup lire. J'ai dit, il faut que tu prennes l'habitude de la lire régulièrement, à des heures précises. Et puis là, pendant qu'on sera en vacances, mais on fera ça. Hein. D'accord, Lucas, je te montrerai. Ensuite, bon, après avoir lu, après avoir nourri votre âme avec la lecture de la Bible et réfléchi à ce que vous avez lu, eh bien, il est bon de se concentrer sur l'objet de votre adoration. Pourquoi se concentrer? Pour empêcher votre âme de vagabonder partout comme un singe qui saute de branche en branche sans arrêt, parce que c'est ça, hein? C'est ça, on est. Et c'est un petit singe là-dedans qui saute partout, vous avez remarqué? Hein, quand il y en a qui disent qu'on descend du singe, c'est parce qu'ils ont réfléchi, mais pas avec la bonne réflexion, mais ils sont arrivés à une bonne conclusion. C'est vrai, on est comme des espèces de singes qui sautent de branche en branche. Il faut se calmer, il faut se concentrer. Et c'est seulement quand on s'est exercé à la réflexion, hein, à la concentration, qu'on peut commencer à mettre un pied dans le pays de la contemplation. Pas avant, mes frères et sœurs, pas avant. La réflexion et la concentration, c'est un travail, ça demande un effort, ça demande de la volonté. Et la contemplation, ça va transformer votre réflexion et votre concentration dans une expérience, dans quelque chose de vécu, quelque chose qui crée. La contemplation vous fait entrer consciemment dans la présence de Dieu. Mais du vrai Dieu, pas du Dieu religieux. Et quand vous sortez de la contemplation, alors vous êtes capable de réaliser des choses que le commun des mortels ne peut pas réaliser. Ça vous arrivera même à votre insu d'être le canal de la bénédiction de Dieu pour des gens, pour la guérison des gens. Ça m'est arrivé souvent de toucher simplement des gens, puis ils sont guéris. Alors je ne savais même pas qu'ils étaient malades, puis mon intention n'était pas de prier pour eux. Mais quand vous avez passé du temps dans la contemplation, c'est-à-dire avant, il y a eu tout un travail de réflexion, de méditation, de réflexion, il y a eu tout un travail de concentration, de qui je suis, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut, quel est son plan. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit la dernière fois? Ben alors après, vous rentrez dans la contemplation, vous êtes réceptif, et quand vous sortez de là, ben il y a quelque chose qui se passe. Vous étiez dans la présence de Dieu, donc il y a quelque chose qui se passe. Et les gens, ils pensent simplement prier et puis dire « au nom de Jésus !» et que ça va se faire, non? Quand vous passez des moments comme ça dans la présence de Dieu, vous rapportez quelque chose sur terre, en quelque sorte, pour les gens, vous les bénissez. Vous dites, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Puis oui, puis oui, puis oui. Au nom de Jésus. Alors imaginez, là, on est des ministres, on est envoyés de Dieu pour bénir les gens, et on est là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors là, par exemple, vous avez un ministre, il est envoyé dans une nation, et pour rapporter la parole du président, puis dit, au nom du président, au nom du président, au nom du président, au nom du président. Mais il passerait pour un malade mental, et ça serait un vrai malade mental. Ben, quand vous faites ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mais les démons rient, ils se foutent de vous, ils ont raison, parce que vous êtes un malade mental quand vous faites ça. Quand vous avez passé du temps à la présence de Dieu, alors vous dites simplement, voilà, je suis là au nom de Jésus, et là, les choses se passent. Toute proportion gardée avec ce que je viens de vous dire, de ce qui m'est arrivé dans mon ministère. Quand Moïse est descendu du mont Sinaï, il ne savait même pas que son visage rayonnait. Mais c'était tellement fort que les gens n'osaient même pas s'approcher de lui. Vous lisez, dans Exode 34, 29, 35. Il avait passé du temps dans la présence de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit qu'il se faisait de grands miracles par les mains des apôtres, et les autres, les gens du peuple n'osaient même pas s'approcher d'eux. Hein, vous trouvez ça dans Actes 5, 12. Et ça, c'est pas pour une certaine catégorie de personnes à qui Dieu aurait greffé un ministère. Mais pas du tout. C'est pour tout enfant de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il doit se passer des choses puissantes, différentes, avec n'importe quel chrétien qui se consacre. Alors aujourd'hui, Dieu agit encore avec puissance. Avec ceux qui sont dans la contemplation. Alors, le problème, c'est que de nos jours, les gens sont devenus effrontés, arrogants, ils respectent ni plus rien ni plus personne, et alors le peuple est aveugle, ça c'est prophétique, hein, Apocalypse 3:17, il est aveugle, il ne se rend pas compte, et comme disait notre prophète, là, il marche avec leurs pieds sales, là où les anges n'osent même pas poser leur regard. Et puis voilà, puis alors, pour eux tout est souillé, parce qu'ils sont souillés eux-mêmes, alors ils ne voient pas ce qui se passe. Et vous devez rentrer dans la présence de Dieu, vous devez rentrer dans cette contemplation des choses, entrer en esprit, en vérité. Alors je vous enseigne ces choses aujourd'hui parce que je désire que dans notre communauté, vous qui écoutez Internet, je désire voir des disciples de Jésus qui sont utilisés puissamment par l'Esprit du Seigneur. Si vous ne savez pas reconnaître ce qui est sacré, si vous ne savez pas reconnaître ce qui est sacré d'entre ce qui est profane, alors ces enseignements, ça ne changera rien à votre vie. Et puis vous êtes là, puis vous pensez, voilà, petit A, petit B, petit C, ah j'ai compris, alors il y a méditation, concentration, puis ensuite contemplation, ah voilà, puis vous croyez que vous avez compris quelque chose parce que ce n'est pas théorique. Si vous êtes quelqu'un si vous êtes sensible, si vous vous rendez sensible, si vous êtes comme un ouvrier qui aime son patron, eh bien, vous allez vous mettre au travail, vous allez méditer correctement, vous allez vous concentrer correctement et vous allez contempler, ou alors vous serez à même de comprendre, alors vraiment, pourquoi votre âme, elle a tellement tendance à chercher à vous faire souffrir, parce que c'est ça. Tant qu'on n'est pas en contact avec Dieu, notre âme, elle tourne toujours tout pour nous faire souffrir nous-mêmes. Maintenant, celui qui médite, qui se concentre, qui contemple, ça ne veut pas dire qu'il va être parfait. On a toujours un chemin encore à faire. Mais au moins, celui qui fait ces choses correctement, il est déjà avancé sur le chemin de la perfection. Frères et sœurs, on est tous pareils. Hein? On est tous pareils. On veut avoir une vie plus harmonieuse, on veut manifester de l'amour, on veut que notre vie soit moins stressante. C'est ça qu'on veut. Même les gens du monde. Regardez, il y a une chanson de Sylvie Vartan qui dit comment retrouver la vie en rose ? Apprendre à aimer les jolies choses. Si on ne sait pas vivre au rythme du cœur, si on ne sait pas vivre au rythme du cœur, il faut déjà apprendre à vivre au rythme du cœur avant de vouloir vivre au rythme de Dieu. Dieu vous a donné un nouveau cœur. Maintenant, il vous a donné un esprit. Par cet esprit, vivez au rythme de votre cœur. Et puis, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit qui vous apporte dans la parole de Dieu la connaissance dont vous avez besoin pour vivre selon comme Dieu veut. Mais tout mélanger, c'est ridicule. Les gens de ce monde aussi, ils sont conscients que déjà, il faudrait... Hein, je vous répète les paroles. Comment retrouver la vie en rose, c'est-à-dire la vie comme quand on est enfant. Comment apprendre à aimer les jolies choses si on ne sait déjà pas vivre au rythme du cœur. C'est grave. Hein. Alors, je ne vous enseigne pas une doctrine. Je vous enseigne ce qui doit se vivre quand on aime Jésus. C'est ça. Ce n'est pas une doctrine. Ce que vous recherchez, ce que tout être humain recherche, c'est à la portée de votre main. Ça veut dire, c'est accessible. C'est pas quelque chose que Dieu vous demande qui est impossible à faire. Et vous dites, bon, j'ai pas le tempérament contemplatif, donc c'est pas possible. Si, c'est possible. C'est possible. Vous devez vous libérer de vos rêveries évangéliques, de vos cauchemars évangéliques, et de vos soucis. Les soucis sont créés par notre âme qui est mal instruite. Alors, il faut revenir à la netteté. Hein, je vous parlais de focalisation l'autre jour. Maintenant, c'est la netteté. Il faut faire la netteté, la précision. Tout à l'heure, avec mon nouvel iPhone, c'est comme ça qu'on dit, 16 mégas, c'est comme ça qu'on dit, hein? Ben, je prenais en photo les vitraux de notre chapelle. C'est d'une netteté. Je montrais ça à Richie. C'est formidable. Il faut faire la netteté aussi sur nos croyances. La netteté sur la netteté sur les moments présents. Hein? Regardez ce qui se passe autour de vous, commencez à apprécier les choses. Est-ce que vous vivez dans le présent, le moment présent ? Le moment présent, Dieu vous a pardonné, vous êtes conscient du pardon de Dieu dans votre vie, vous êtes tranquille, voilà, Dieu vous a pardonné. Si oui, alors vous pouvez réfléchir, vous pouvez élever votre âme, vous pouvez faire grandir votre connaissance, élargir votre temps, votre intelligence au sujet des choses de Dieu. Vous pouvez vous concentrer sur Dieu, le vrai Dieu, celui qui vous aime, celui qui vous a pardonné, celui qui n'est pas méchant, celui qui n'est pas vicieux, celui qui n'est pas là derrière un mur à attendre avec un bâton, se réjouissant que vous fassiez un péché pour pouvoir vous taper dessus. Beaucoup de gens pensent qu'il est comme ça. Hein? Ou alors un Dieu malhabile qui, chaque fois qu'il vous bénit, sait très bien que le diable va venir derrière pour tout ficher en l'air, tout gâcher. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il est celui qui vous aime. Alors, si vous êtes comme ça, alors vous pouvez entrer en contemplation parce que votre base, elle est bonne. En ceci dit, vous devez savoir que vous allez vivre une chose qui a vraiment de la valeur, qui est très précieuse. Et pour vivre ça, ça demande obligatoirement, il y a un prix. Le prix, ben, c'est d'avoir un minimum quand même de motivation. On ne peut pas dire, bon, ben, tiens, je vais contempler, là, j'ai 5 minutes, je vais aller contempler. Non, ça demande de la discipline, ça demande de l'engagement. Alors, à midi, je disais à Lucas, alors il faut lire la Bible tous les jours. Il disait, pourquoi ? Ben voilà, ben, il est petit, c'est un jeune, un enfant. Je dis, mais parce qu'on mange tous les jours. Mais on ne mange pas à n'importe quelle heure. On se discipline, puis après, ça devient un besoin. Moi, à midi moins 5, je sais que c'est midi moins 5. Hein, parce que j'ai faim, parce que j'ai créé une discipline. C'est bon d'être comme ça, de faire ça. Ce n'est pas parce que tout est comme ça, tout dans l'univers est comme ça. C'est des cycles tout le temps et c'est parfait. Les Mayas, ils avaient réussi déjà à savoir, ils avaient fait des calendriers tellement précis qu'ils ont prévu toutes les éclipses de lune, de soleil et toutes ces choses-là jusqu'à notre époque. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est juste. Pourquoi ? Parce que ça ne sort jamais des cycles établis. Et nous aussi, on est des êtres cycliques. Alors, si on n'a pas une discipline, eh bien, on est indiscipliné. Si on est discipliné, on est déséquilibré, on est stressé, on a des angoisses, on est malade, on n'est pas bien. On se dit, mais pourquoi pourtant j'ai prié ? Ben oui, mais voilà. Hein, revenir aux choses simples. Je dis ça parce que de nos jours, les chrétiens sont devenus comme les gens du monde. Ils sont devenus des consommateurs, ils veulent tout de suite. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a un prix à payer. Ouais, j'ai donné ma dîme, alors qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il fait, Dieu ? Pourtant, il a promis. Alors, je ne suis pas dans l'abondance. Pourquoi ? J'ai prié, ce n'est pas normal. Hein, il n'y a rien qui se passe. Hein, on connaissait l'histoire. Le colonel qui fait une inspection vers les soldats, puis il a le manuel, là. Puis il dit, alors, combien de temps met un canon pour se refroidir après avoir tiré un obus ? Alors, il demande à un soldat. Le soldat, il dit, 10 minutes, non. Puis, il demande à un autre soldat, 5 minutes, non. Le manuel dit, vous n'avez pas lu le manuel ? Et vous, alors, combien de temps il met ? L'autre, il dit, moi, je m'en fous de combien de temps il met. Mais je m'en fous tellement que je m'en fous combien de temps il met pour se refroidir votre canon. Je m'en fous. Et vous ? Il met 30 ans pour se refroidir. Et les gens, ils veulent savoir. Il y a un frère là que j'adore, que j'aime beaucoup, qui m'a dit combien de temps, à partir du moment où on a prié, combien de temps on peut s'attendre pour que la guérison arrive. Alors le colonel, il continue. Puis finalement, il dit, mais je vous la donne, moi, la réponse. Elle est dans le manuel. Le canon, le fût du canon, après avoir tiré l'obus, il met un certain temps. Alors voilà, il n'y a rien qui est réglé comme du papier à musique dans le monde spirituel. Nous, on voudrait, Dieu nous a créés comme ça, physiquement, avec des cycles et des choses qu'on a mis dans le monde de l'esprit. On y rentre par les cycles, mais après c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas parce que tu as donné ta dîme aujourd'hui que tu vas avoir l'argent qu'il faut pour payer ton loyer à la fin du mois. C'est des bêtises, c'est de l'enfantillage. Alors ne vous conformez pas au siècle présent qui veut tout de suite. La Bible dit que ça demande un effort, la réflexion fatigue le corps, c'est écrit. Ézéchiel 12, 14. Et puis la concentration aussi, ça fatigue le corps. Pourquoi je vous dis ces choses-là ? Il vous faudra une bonne motivation parce que sinon, vous n'arriverez pas au stade de la contemplation. Vous allez vous lasser, vous allez vous fatiguer. Vous allez dire, oh là là, oh, moi je sens rien. La contemplation, c'est la troisième clé qui ouvre la grande porte de la connaissance de la personne de Dieu. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et on pense que parce qu'on a levé la main dans une réunion, on s'est fait tremper dans l'eau. Alors voilà, on connaît Dieu, parce qu'on a lu 2-3 trucs dans la Bible. Mais vous plaisantez. La contemplation, ces choses que je vous enseigne, ce n'est pas non plus un truc pour un snobinard pseudo-spirituel. Ce n'est pas une mode. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui est dans la Bible, c'est quelque chose qui est pratiqué par les saints hommes et les saintes femmes de Dieu. Ce n'est pas non plus à confondre avec l'auto-hypnose non plus. L'auto-hypnose, c'est une transe légère. Et nous, ce n'est pas ça. La contemplation, c'est une clé pour entrer en soi-même, dans le moment présent, pour y rencontrer Dieu qui vit dans son temple. 1 Corinthiens 3:16. 3:16, c'est facile à se rappeler. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, avec ce verset, il y en a qui font des doctrines. On s'en fout des doctrines. Mais on s'en fout tellement qu'on s'en fout. L'autre avec son... Hein? Ce qui est important, c'est qu'il faut vivre dans votre corps, votre esprit. Et puis, le Saint-Esprit est là aussi, en communion avec votre esprit. Et puis, il faut trouver le moyen d'avoir conscience de ça avec votre chair. Et c'est tout un travail sur votre chair. Vous voyez? Même dans l'église primitive, il y en avait qui n'avaient pas compris ça, puisque Paul leur dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et c'est pas nouveau, hein? Or, si Dieu habite en vous, il veut faire par vous les mêmes choses qu'il faisait au travers du corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous montrer comment on doit vivre un homme, une femme, normalement, avec son Dieu. Alors, pourquoi si peu de chrétiens vivent une vie si dépourvu du miracle? Je ne parle pas seulement de guérison, je parle d'intervention divine. Ils ne sont même pas conscients de... Frères et sœurs, la réponse, elle est dans l'enseignement que je vous donne. Je vais terminer ce soir en vous expliquant quelque chose qui peut vous faire découvrir comment exercer justement cette réflexion, cette concentration pour ensuite en arriver à la contemplation. Quand je suis arrivé au Burkina, on m'a fait goûter des tas de choses. Et vous savez, en tant qu'Européen, il y a beaucoup de choses en Afrique qu'on ne connaît pas, et des goûts, des saveurs. Par exemple, il y a des fruits, je ne parle même pas du taux, hein, parce que ça ne vaut pas le coup, je déteste. Mais il y a des fruits au Burkina Faso, en Afrique, un peu partout, qui sont vraiment très spéciaux, et nous, les Européens, on ne les connaît pas. Alors, on vous en propose un, on vous propose un de ces fruits. D'abord, on ne vous le propose pas sur une assiette en faïence ou en porcelaine, tout ça, on vous le propose sur une feuille, hein, quand ce n'est pas avec du papier de sac de ciment. Alors là, vous devez mettre de côté vos pensées, vos idées préconçues, tout ça, vous devez mettre de côté. Vous regardez le fruit, vous regardez sa forme, sa couleur, ce ne sont pas comme les pommes, ce n'est pas comme les pêches, ce n'est pas des pruneaux non plus, ce n'est pas des raisins, ce n'est pas des bananes, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Vous regardez ça, puis ensuite vous tendez la main, vous le prenez. Et puis vous en sentez le poids. Vous prenez conscience du poids de ce fruit. Puis ensuite vous commencez à le peler. Peler ce fruit. Et puis vous êtes attentif à la sensation que vos doigts perçoivent quand vous pelez ce fruit. Vous voyez la différence qu'il y a entre la texture de la peau et puis la chair du fruit. C'est différent, c'est pas pareil. Puis ensuite, vous prenez conscience donc du poids, parce que quand vous avez pelé ces fruits, il y en a qui sont très rugueux, et la pelure est très lourde, mais quand vous l'avez enlevé, le fruit est beaucoup plus léger, vous prenez conscience de ça. Puis ensuite, vous amenez ce fruit à vos lèvres. Stop ! Vous ne mangez pas tout de suite. Mangez pas tout de suite. Vous arrêtez un moment, il est juste là devant vos lèvres, et puis vous humez. Vous humez. Vous sentez le fruit. Vous sentez. Et puis vous ouvrez votre bouche, et vous mordez dedans. Alors là, le premier jus envahit tout votre palais. Et puis vous mordez encore. Et puis vous mâchez le fruit. Et puis là, vous goûtez la palette incroyable de toutes les saveurs qu'il y a là-dedans. Et puis pendant que vous vous goûtez comme ça, vous imaginez en fermant les yeux que c'est la première fois. Ça, vous le savez. C'est la première fois que vous mangez ça. Mais vous imaginez aussi que c'est la dernière fois. Vous ne mangerez plus jamais ça. Vous ne mangerez plus jamais. Frères et sœurs, faites de chaque moment un instant de fraîcheur, de nouveauté, de perfection. Puis vous comparez cette expérience, là, comment vous avez mangé ce fruit, avec l'expérience, avec vos habitudes, de comment d'habitude vous mangez les fruits. Moi, je sais, hein, comment Michou achète toujours des bananes, des pommes, des poires, des scoubidoubidou. Alors, je me jette sur la banane, je loue, et hop, en 3 bouchées, je l'avale et tout. Hein, on fait ça très souvent. Vous m'avez compris? Vous avez compris? La réflexion, la concentration, puis ensuite, ah, l'extase, la contemplation, le goût délicieux. On souffre parce qu'on a une idée fausse de ce que c'est la vie, parce qu'on ne sait pas apprécier la vie, on souffre. Les chrétiens pensent que leur vie devrait être sans douleur. Elle devrait être parfaite. Oh, j'ai péché, alors suis-je encore chrétien? C'est des idées de gamins. c'est des idées complètement immatures. Ça, c'est ce que les médias cherchent à faire croire aux gens du monde, que grâce à Tahiti Douche, ils vont vivre dans un paradis, n'est-ce pas? Ils se retrouvent sous leur douche. Moi, j'ai une douche paradisiaque, mais il y a beaucoup de douches en France. Mes enfants, ce n'est pas du tout comme on voit dans la pub, hein. Ça, c'est ce que les médias font croire aux gens du monde et c'est ce que les faux prophètes font croire avec leurs fables dans les églises. Que normalement, la vie doit être sans douleur, parfaite. Et ça, c'est aussi ce que vos désirs personnels vous font croire en projetant des images erronées sur l'écran de votre intelligence. C'est des idées stupides. Elles sont tapies dans votre ombre. Elles sont tapies en vous. Elles se cachent là. Et en fait, c'est très dangereux parce qu'elles font office de référence pour que vous jugiez les succès, que vous jugiez les échecs. Voyez ? Tout ce qui vous arrive. Alors que Jésus dit, ne jugez pas. Ne jugez pas. Pourquoi ne faut pas juger ?
Parce que c'est très vilain de juger son frère.
Oui, bien sûr, mais ça, c'est vraiment le béaba. Lorsque les gens, ou lorsque Dieu, ne répond pas à tes attentes, tu souffres et tu finis toujours par culpabiliser. Oui, c'est parce que je ne mérite pas. Oui, c'est parce que je l'ai déçu. Oui, c'est parce que je n'ai pas fait ci. Ou c'est parce que je n'ai pas fait ça. Et tu culpabilises toujours quand tu juges. Apprenez qui est Dieu. Contemplez-le. Adorez-le pour ce qu'il est vraiment, en esprit et en vérité. Vous voyez, mes frères et sœurs, ne vous faites pas une image de ce que vous voudriez qu'il soit. Il y a beaucoup de gens aussi, dans les couples, ils se font une image, n'est-ce pas? Oh, il est beau, il sent bon le sable chaud, voilà, ils se marient avec, puis après, parce qu'ils ont une image complètement, et puis après, oulala, il pue du groin quand il se lève. Et puis, c'est plus du tout la même personne. Ils se sont fait une image. Voilà. Alors, voilà pourquoi Dieu dit, je ne veux pas que vous fassiez une image. Ne vous faites pas une image de ce que vous voudriez que Dieu soit. Ne vous faites pas une image de ce que les religions vous disent qu'il est. Vous savez, Dieu est beaucoup moins religieux que vous. Pensez à ça. Concentrez-vous sur cette idée. Contemplez Dieu dans la vérité. Et puis on se revoit dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ces choses simples de base que je dis encore pour élever mes frères et sœurs, les emmener dans une dimension spirituelle plus belle encore. Je te remercie mon Dieu de m'inspirer ces choses afin que je puisse les inspirer aussi à mon tour. Et qu'ils soient sérieux, qu'ils ne soient pas comme les gens de ce monde, remplis d'arrogance, remplis de... Ouais, mais bon, ben voilà, Non, mais qu'ils soient sérieux, qu'ils soient gentils, qu'ils cherchent à comprendre, qu'ils ne disent pas « oui, je sais », mais qu'ils cherchent à comprendre les profondeurs et qu'ils puissent les atteindre pour ta gloire, Jésus, afin que nous puissions être vraiment les reflets de ta lumière sur cette terre, faisant les choses que toi tu faisais, disant les choses que toi tu disais, ayant les attitudes que toi tu avais. Père, dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen.